encore lire Luc 1, le verset que Yona a lu, verset 15 et verset 17 aussi. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé ou un peuple préparé en allemand. Ou bien de préparer un peuple équipé. Nous avons vu quelque chose, le Seigneur a besoin d'un précurseur. Comme lors de sa première venue, ce ne serait pas bon si le Seigneur apparaissait comme ça, d'un coup, sans s'annoncer. Mais quand il y a une visite importante qui vient, il y a quelques signes que cette visite va arriver. Et c'est vraiment un privilège, comme le Seigneur a dit, qu'il veut un peuple, en français bien disposé, mais un peuple préparé. Le Seigneur m'a souvent rappelé ce verset ces derniers temps, que le Seigneur, quand il revient, il veut aussi avoir trouvé un peuple qui s'est préparé. Quand il vient et que personne de son peuple, de son propre peuple, personne ne l'attend. Nous sommes tous surpris qu'il arrive. Ah, j'ai pas compté là-dessus, mince. Cela ne va pas. Le Seigneur a besoin d'un peuple qui s'est préparé, qui vraiment attend et hâte son retour. C'est pour cela que nous avons aussi cette conférence. J'espère qu'après ce temps, le Seigneur, que nous tous serons tous de tels hommes qui attendent son retour. Et tous les prophètes ont déjà parlé de la première venue du Seigneur. Esaïe, par exemple, il a déjà annoncé tellement de détails dans Esaïe 53, par exemple. Comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il souffre. Esaïe a dû se demander, ouais, quand est-ce qu'il vient? Qui sait? Est-ce que je vais le rencontrer? Mais il ne l'a pas rencontré. Et j'ai pensé qu'ils étaient tous un peu jaloux de Jean, d'une certaine manière. C'est pour ça que le Seigneur a dit que Jean était le plus grand parmi les prophètes parce qu'ils ont déjà tous annoncé sa venue, mais ils ne l'ont pas rencontré. Mais Jean, il l'a annoncé et il l'a vu. De ce dont il a parlé, il l'a vraiment vu, vécu lui-même. C'est vraiment puissant, ça c'est un privilège. Les prophètes, autrement, ils ont prophétisé quelque chose, annoncé. Parfois, la plupart, ils ne l'ont pas vu. Ils ont souvent vu le jugement, mais au sujet du Messie, ils ne l'ont pas vu d'une certaine manière, ils sont passés à côté. C'est pour ça que c'est vraiment unique. Le rôle de Jean-Baptiste, parce qu'il n'a pas seulement annoncé le Messie, mais il l'a vraiment vu. Et nous vivons dans un temps semblable. Nous ne parlons pas seulement au sujet du retour du Seigneur, mais nous avons la chance de pouvoir le voir et de le vivre. Nous pouvons lire ensemble Matthieu 11, versets 2 à 6. Ça continue, Jean n'a pas seulement annoncé, mais il a une autre histoire encore. Jean, ayant entendu parler de sa prison, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est C'est vraiment étonnant, surprenant. Et des gens ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Et ensuite, il lui envoie ses disciples. Il a annoncé le Messie. Et malgré tout, ici, ses disciples, les disciples de Jean, les disciples, c'est ceux qui le suivent. Ils le suivaient. Ils suivaient qui, Jean? Ils n'ont pas suivi Christ, mais ils ont continué, ils sont restés vers Jean. Et Jean, il a dû dire quelque chose de juste. Il a dit, il a vu Jésus. Il a dit, c'est l'agneau de Dieu. Il y a quelques-uns des disciples qui ont quitté Jean pour suivre Jésus. C'était à son service d'annoncer le Seigneur, de l'élever lui. Mais ça s'est pas arrêté là. Il a dit, maintenant c'est la fin, vous suivez tous Christ. Mais non, il a continué à avoir des disciples. On a lu dans Matthieu 9, on peut voir aussi dans un autre passage que les disciples de Jésus, de Jean, viennent, disent, mais pourquoi est-ce que nos jeûnes ont été, tes disciples ne jeûnent pas? Les disciples de Jean et les pharisiens, ils vont ensemble. Ils ont fait la même chose. Il n'y avait pas beaucoup de différence. C'est dans Jean 9, 14. Ils disent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Ça montre que là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Dans Jean 3 aussi, on voit comment Jésus baptise. Et plus loin, il y a Jean qui baptise aussi. Qu'est-ce que c'est que cela? Cela montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est pour ça que le Seigneur, dans Matthieu 11, il dit, est-ce que c'est toi qui dois venir? Nous devons en entendre un autre. Et le Seigneur répond, qu'est-ce qui arrive? Il a dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les prêts sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jean dit, regarde, j'ai fait tellement de choses, je t'ai annoncé, j'ai préparé le peuple, j'ai tellement fait pour toi, et là je suis en prison. Est-ce que toi, tu es vraiment celui qui doit venir, celui qui doit nous libérer, le Messie, ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Et certainement, à sa place, j'aurais certainement eu aussi ce genre de pensée. Si le Messie doit me sortir de prison, pourquoi est-ce que je suis en prison? Mais le Seigneur a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. En tant que croyant, même quelqu'un qui a annoncé le Seigneur, qui a parlé pour lui, malgré tout, le Seigneur peut être une occasion de chute pour moi. Même dans Pierre, il écrit que le Seigneur, qu'il y a deux aspects dans le Seigneur. Pour certains, il est celui qui est si précieux. Puis pour les autres, il est cette pierre d'achoppement. Et là, il montre, c'est si je suis désobéissant. Dès le moment où je suis désobéissant au Seigneur, que je ne suis plus ses chemins, alors ce que le Seigneur fait devient une occasion de chute pour moi. Et ça, c'est vraiment tragique. Le Seigneur a annoncé le Seigneur, le Messie, et ensuite il l'a manqué lui-même. Ah, Seigneur, c'est vraiment grave. Il a travaillé pour ce moment, il l'a annoncé, et au moment où il était là, il a continué sa propre œuvre avec ses propres disciples. Je crois qu'il n'y a pas plus tragique. Tous les prophètes Ils auraient bien échangé avec lui. Et lui, il le manque. Il manque l'occasion. Ça, c'est vraiment un grand avertissement pour nous. Parce que nous avons eu hier soir déjà, le Seigneur revient bientôt, même très bientôt. Et nous parlons de cela. Nous avertissons les gens, nous leur annonçons, encourageons à se repentir. Et quand le Seigneur revient, qu'en est-il? Si nous manquons nous-mêmes le royaume, ce serait vraiment très tragique. Seigneur, j'ai vraiment une crainte que je ne sois pas comme Jean-Baptiste. Parce qu'il y a cette possibilité que jusqu'à que le Seigneur revienne, il y a cette possibilité de tomber, que nous restions bloqués quelque part. Et d'un autre côté, comme nous avons entendu ce matin, nous devons être courageux et annoncer ce que le Seigneur veut faire et qu'il revient, que le temps est venu de se repentir. Et aujourd'hui, le Seigneur a besoin de nous comme ses précurseurs. Et en même temps, il nous donne aussi cet avertissement. Que nous ne devons pas seulement parler comme ça, mais nous devons prêter attention que nous-mêmes, nous entrons dans le royaume. C'est qu'il y a cette possibilité de se stopper. Parfois, nous sommes très convaincus de nous-mêmes. Mais le Seigneur a souvent montré qu'il y a cette possibilité que nous ayons bien commencé, mais que nous prenions d'autres chemins avec le temps. Dans Hébreux 2, je crois, mais je ne suis pas sûre. Hébreux, mais... Je ne sais pas si... Non, c'est pas ça. Je ne sais pas quel chapitre. Je ne sais pas. Jusqu'à que le Seigneur revienne, les hommes peuvent être sauvés, revenir au Seigneur, se repentir. Mais de la même manière, si on continue à lire dans ce passage, Ézéchiel parle aussi des justes. Ah, c'est bon, Ézéchiel 3, verset 20. Ézéchiel 3, verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché et ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Ça m'a vraiment étonnée. Il y a cette possibilité de se détourner par un faux chemin. Le Seigneur nous donne vraiment cet avertissement qu'il y a aussi. Il y a la possibilité de revenir d'un mauvais chemin sur le bon, mais aussi il y a ce piège d'être détourné du bon chemin. Et là, il dit, le juste... Le juste qui s'est laissé avertir. Il s'est laissé avertir. Quand tout va bien, quand notre parole va de l'avant, que le Seigneur peut faire quelque chose et que ça avance, que quelque chose est œuvré, alors il y a vraiment ce danger. Est-ce que le Seigneur peut encore m'avertir? Est-ce que j'ai encore une oreille pour me laisser avertir? Et un avertissement ne vient pas toujours avec une annonce, avec une, il n'y a pas de précurseur, avec un signe reconnaissable. C'est comme peut-être ce frère vient vers moi et dit « Maintenant, je dois t'exhorter, deux points. » Mais souvent, il y a des circonstances, des frères et sœurs, même des enfants, des choses où je ne m'y attends pas, mais cela montre quelque chose, révèle quelque chose dans mon cœur, quelque chose de caché, la fierté ou un comportement qui ne plaît pas au Seigneur. Comme Jean, que je veux encore faire mes propres choses. Je veux bien que les hommes, j'apprécie que les hommes m'écoutent. C'est pas toujours, il n'y a pas toujours un avertissement officiel, mais c'est par beaucoup de circonstances, des choses, il y a des choses qui sont exposées dans notre cœur. Mais c'est bon si nous sommes de tels justes qui se laissent avertir.
Amen.
Humilient leur âme, qui se laissent avertir. Peut-être que les autres ne savent pas de quoi il en retourne, mais moi qui dois être exhorté, je sais tout à fait de quoi il en va. Des versets importants où le Seigneur montre pourquoi aujourd'hui c'est important pour nous. Pourquoi nous avons besoin de cet avertissement de Jean-Baptiste pour nous. Je ne sais pas où. Matthieu 9, 14 à 17. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Matthieu 9, 14 à 17. Surtout les versets 16 et 17, c'est de paraboles montrent l'arrière-plan. Pourquoi Jean, en tant que précurseur, il a manqué le Christ. Et il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Quelque chose de neuf sur un vieil habit, pièce neuve. C'est comme... Parfois, tu as un jeans qui est si vieux et agréable, confortable, tu l'apprécies tellement. Mais il y a un trou qui vient, quelque chose arrive, il est abîmé. Ça peut faire mal. Mais si, à ce moment-là, j'ai un nouveau jeans, personne ne va couper le nouveau jeans pour le coller sur le vieux. Personne ne va faire ça. Tu vas... acheter un nouveau pantalon pour le découper, pour coller la pièce sur ton vieux pantalon. Mais nous, les croyants, nous faisons cela. Le Seigneur a déjà dit, avec le vieil homme et le nouvel homme, que le vieil homme, nous devons nous en dépouiller, l'enterrer et revêtir le nouvel homme, l'ensevelir. Le Seigneur ne dit pas, oui, ta patience est bien, et je te rajoute un peu de justice. Non. Mais nous remarquons tous que le vieil homme, il est complètement déchu. Il doit vraiment être complètement loin et j'ai besoin d'un nouvel homme. Ce que le Seigneur fait, c'est pas qu'il prend un petit bout de drap, ici un petit peu un bout de drap neuf. Alors ici, tu as déjà dans ta parole. T'as déjà pas mal bon, tu parles bien, t'as un peu de besoin d'amour, je rajoute un peu d'amour. Le Seigneur n'agit pas ainsi. Mais dans l'offrande pour le péché, tout ton être est traité. Tu as besoin du nouvel homme. Et ça concerne aussi tout le peuple de Dieu. Le grand problème, c'est que nous ne voulons pas volontiers nous laisser transformer. Nous ne voulons pas volontiers quelque chose qui est habituel, quelque chose qui est installé, quelque chose que nous apprécions, le laisser et pour quelque chose de nouveau. L'homme, le vieil homme n'aime pas ça. Et ça, on le voit dans l'histoire de l'Église. Le Seigneur a souvent réveillé des hommes, leur a montré quelque chose de nouveau. Et il a vraiment déversé un nouveau vin, un vin nouveau, une nouvelle lumière. Et comment est-ce que ça s'est passé dans l'histoire? Tout le peuple de Dieu était volontaire. Oui, amen, nous avons attendu cela. Non, dans l'histoire de l'Église, on le voit. Le vin nouveau a produit une explosion. Il a provoqué des difficultés. C'est ça, quand tu veux mettre du vin nouveau dans une vieille outre, il y a un conflit, il y a des difficultés. Je crois que, en commençant par Luther, il ne voulait pas chercher quelque chose pour lui, mais au début, il en allait de la vérité. Mais les catholiques ne pouvaient pas accepter cela. C'est pour ça qu'ils l'ont sorti. Et un certain temps plus tard, il y a des hommes qui ont vu « Ah, je vais me faire baptiser. » Et consciemment, en tant qu'adulte. Parce que je sais de quoi il en va. Mais ce qui est étonnant, c'est que, surprenant, qu'est-ce que l'Église a fait, Martin Luther King? Ils ont persécuté de tels hommes. En si peu de temps, ils sont tout à coup... Et c'est vraiment un avertissement pour nous. C'est un nouveau voile. Un nouveau voile, c'est pas une garantie que tout va rester comme ça. Ça peut venir à une bonne outre, ça peut vite devenir une vieille outre. J'ai déjà remarqué, quand je parle avec des croyants et que je dis quelque chose de la vérité, de la parole de Dieu, alors, on peut bien remarquer à la réaction des personnes. C'est une nouvelle outre qui peut recevoir quelque chose, c'est une vieille outre et ça produit une explosion. C'est une vieille outre, tu mets du vin nouveau, tu mets un couvercle et à un moment ça saute. Quand on explique à certains frères et sœurs que le Seigneur revient bientôt, pas tous les croyants n'entrent dans le royaume de 1000 ans, mais que c'est une récompense. Qu'il y a une récompense et qu'il y a aussi ou le contraire de la récompense, un salaire. Et on peut tout de suite remarquer la réaction des gens, s'ils sont vieilles ou trop pas. Il y a quelques mois, le Seigneur m'a beaucoup parlé, dans une discussion. À un moment, j'ai juste dit deux phrases à quelqu'un, donc il discutait. Dans ma vie, je devrais vraiment aller sur le chemin étroit. Et ça, c'est vraiment ma direction pour ma vie. J'ai juste dit deux phrases. Et ensuite, il y a 10 minutes, une explosion, un feu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive là? J'ai remarqué, c'est vraiment une vieille outre. Seigneur Jésus. Pour ça qu'ensuite j'ai plus dit grand chose. Parce que le vin, je voulais pas continuer à déverser du vin nouveau dans cette vieille outre. Mais je suis rentrée et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, préserve-moi. Priez pour ses frères et sœurs. Mais j'ai aussi pensé à moi, Seigneur. Préserve-moi, conserve-moi de ne pas devenir une vieille outre. Parce qu'un vin nouveau, qu'est-ce que c'est ? Remarquons que le Seigneur est toujours frais et nouveau. Un nouveau vin, il est vivant. Là, il y a la vie dedans. Et si tu le fermes, ce n'est pas bon. Aussi, dans le Seigneur, nous avons toujours besoin d'une nouvelle révélation de sa parole fraîche. Et souvent, je suis ouvert à tout et que tout entre parce que je veux entendre quelque chose de nouveau. C'est pas que je suis ouvert à tout, mais dans notre expérience, quand nous venons à la parole, nous venons au Seigneur, dans notre expérience, dans notre vie, ça doit toujours être plus riche. Nous avons besoin de cette parole fraîche du Seigneur. Et avoir une telle attitude, de rechercher cela, nous en avons tous besoin. Tous les frères et sœurs de Sion en ont besoin. Je ne veux pas juste me contenter d'une vieille outre, quelque chose qui est habituel, peut-être. Mais c'est juste la répétition. Je remâche des choses d'une vieille manière. Oui, nous devons ruminer, mais ça doit être frais et vivant. Et ça, c'est vraiment actuel. Ça se développe avec du vin nouveau, que c'est frais, nouveau, vivant. Tu ne peux pas anticiper dans combien de mois, à quoi tu en sais. Si je peux tout planifier aujourd'hui, je sais exactement, ça sera comme ci, comme ça, la réunion sera comme ci, comme ça. Et tout est prévisible. Tout est déjà anticipé. Ça, c'est devenu une vieille outre, du coup. J'aime bien le vin nouveau. J'apprécie le vin nouveau. Et je ne veux pas avoir de vieux vins. Le vin nouveau, tu vois, aussi dans le résumé, il y a 2-3 points. Vous pouvez voir vous-même. Être une outre, cette nouvelle outre, qu'est-ce qui nous préserve de ne pas devenir cette vieille outre ? D'un côté, quand les disciples ont été appelés, ils ont tous été prêts à tout laisser pour le Seigneur. Leurs filets, leurs parents, leurs bateaux, ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Mais souvent, nous pensons au début, il y a eu tellement de changements, j'ai laissé plein de choses, mais le Seigneur m'a demandé, mais qu'en est-il aujourd'hui chez toi? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner? Ce que les disciples ont fait, Jean, ils ont fait quelque chose de bien, ils jeûnaient, ils étaient pieux, ils n'ont rien fait de mal. Il y a aussi des choses, des structures, des choses qui sont peut-être bonnes, mais elles ne doivent pas devenir une chose, une vieille chose à laquelle nous tenons, nous attachons. Mais est-ce que je suis prêt à tout laisser? Une chose, une tâche, est-ce que pour laquelle j'étais assignée, mais est-ce que c'est toujours le cas? Une nouvelle outre, elle s'adapte. Elle s'adapte. Elle est flexible. Enfin, c'est possible d'être cette nouvelle outre neuve qui peut se former si je suis complètement pour le Seigneur. Dans Matthieu 7, verset 24, Seigneur dit, c'est pourquoi dix personnes ne peuvent servir de maître. Je me suis trompée de verset, je crois. 6:24. Le Seigneur, si tu veux aller de l'avant, servir le Seigneur. Oui, c'est ça, Matthieu 6, 24. Toutes mes structures, ma vieille outre, ma vie habituelle de l'église, tout ça, je ne peux pas l'emmener avec moi. Mais si j'ai une telle attitude, Seigneur, je veux être entièrement pour toi. Je ne veux pas avoir un cœur partagé. Ça va nous protéger aussi de devenir cette vieille outre. Ça veut devenir ancien. Un vin nouveau, ça veut dire que nous changeons tout, nous faisons tout autrement. Et nous pensons que là, nous sommes nouveaux ainsi. Mais ça commence d'abord dans le lieu caché, de devenir vieux. Ensuite, ça s'exprime extérieurement, dans les réactions. Si quelqu'un, quand l'explosion a lieu, l'outre explose, ça se voit. Mais avant, c'est intérieur. C'est pour cela qu'il n'y a pas de liste de choses à dire. Ça, c'est vieux, ça, c'est nouveau. Ça, comme ça, t'es nouveau, comme ça, t'es vieux. Non, une liste comme ça n'apporte pas grand-chose parce que cela dépend si intérieurement je suis cette nouvelle outre neuve. Est-ce que le Seigneur peut déverser en moi ce vin nouveau, me donner une nouvelle révélation? Est-ce que je suis prêt à l'accepter et à laisser toute autre chose pour cela, pour continuer à aller de l'avant avec le Seigneur, à le suivre? C'est pour cela c'est bon d'avoir une telle attitude. Seigneur, protège-nous, conserve-nous sur ce chemin jusqu'à ce que tu reviennes. Nous allons suivre ce chemin. Nous ne vont pas manquer l'entrée dans le royaume. Louez le Seigneur, nous avons un tel privilège de pouvoir annoncer le Seigneur. C'est vraiment un temps particulier. Je remercie le Seigneur qu'il nous donne l'équipement de manière positive, mais il nous donne aussi cet avertissement que nous ne devions pas vieux et que nous ne soyons pas retenus quelque part sur ce chemin, mais que jusqu'au but nous suivions ce chemin étroit. Nous annoncions le Seigneur et que nous entrions avec lui dans son royaume. Louez le Seigneur. Amen.